Amen. Merci beaucoup de l'invitation. On m'a proposé de commencer par me présenter un tout petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas, de donner à peu près tout le monde dans cette salle. Je suis pasteur à Échandon, à côté de Bussigny, en périphérie de Lausanne. J'ai été pendant 10, 15 ans membre de l'église du Réveil à Yverdon. Donc je connais aussi un petit peu les églises du réveil. Je ne suis pas un enfant des églises du réveil. J'étais plus dans les fraternités chrétiennes à Yverdon, mais je connais bien le mouvement des églises du réveil que j'affectionne beaucoup. Et ce matin, quand j'ai demandé à Ramsès que veux-tu que j'aborde comme thématique, est-ce que c'est possible de mettre le slide? Ouais, regarde. Je pense qu'il faut juste changer la source. Il faut venir à la source. Voilà, petit jeu de mots. Amen, amen, ça va arriver. Très bien, ouais. Et puis Ramsès m'a dit, ah bah, tu as carte blanche, tu prêches sur ce que tu veux. Et j'ai aussi à cœur, moi, de vous parler ce matin un peu du Saint-Esprit, parce que je venais en tant que charismatique, aussi dans une église du réveil, c'est toujours important d'accorder de la place au Saint-Esprit. Et j'essaie d'apporter peut-être une thématique qui est moins souvent abordée. C'est une thématique en tout cas que j'ai moins entendu parler. Et là vous dites, mince, quelqu'un qui vient dans l'église et qui a un méchant sur le Saint-Esprit qu'on n'a pas entendu, ça peut être un peu bizarre, mais non, c'est biblique. Vous pouvez le retrouver aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 12. Mais avant d'entrer aussi en matière, ben voilà, je suis aussi bibliothécaire à Startup Ministries, donc je connais aussi Mamie, qui fréquente aussi cette communauté, qui est dans les responsables. Et puis c'est aussi un plaisir d'être là, c'est vraiment un réel plaisir. Voilà. J'ai abordé les petits points un peu d'intro que je voulais aborder. Quelle place occupe le Saint-Esprit dans ma vie? Et ça, c'est une question qui m'interpelle toujours. Je me mets un peu plus là au milieu, peut-être un peu en avant, parce que je fais avec les roses, je ne voyais pas tout le monde. Et c'est vrai, c'est une thématique qui m'interpelle. Quelle place occupe le Saint-Esprit dans ma vie? Ai-je besoin du Saint-Esprit dans mon quotidien? Et c'est vrai, si je regarde ma vie, qu'est-ce que je ne pourrais pas faire sans le Saint-Esprit de ma vie? Qu'est-ce qui changerait concrètement dans mon quotidien, dans ma vie, sans le Saint-Esprit? Et là, c'est une question que je me pose. Est-ce que je suis autonome et je n'ai pas besoin du Saint-Esprit? Si je prends une voiture à peu près 700, 800 km d'autonomie, donc on fait le plein, et on sait qu'on peut rouler à peu près 700 km sans refaire le plein. Si vous allez dans une fête foraine, et que vous prenez les autotamponneuses, vous réalisez que si vous prenez la voiture et vous la déplacez du grillage à l'électricité, vous ne pouvez pas avancer. Une voiture des autotamponneuses a besoin d'être constamment reliée. On pourrait prendre la comparaison de dire peut-être qu'on est un peu comme une Tesla, on a aussi une voiture électrique, mais on a une autonomie. On arrive à vivre sans Dieu. Peut-être qu'on peut se dire, tiens, je viens le dimanche, je recharge un peu mes batteries, et puis normalement, j'arrive à tenir toute la semaine. Après, je reviens dimanche prochain, je recharge de nouveau mes batteries, et puis c'est bon, j'ai une autonomie. Ou est-ce qu'on est comme une auto-tamponneuse où en permanence, on a besoin de cette connexion au Saint-Esprit, sinon on ne peut pas avancer? Allons un peu plus loin. C'est toujours compliqué de représenter la Trinité. Et c'est vrai, quand on réfléchit à la Trinité, c'est une thématique qui est toujours abstraite. On a un père, on a un fils, donc pour le moment, ça va bien. Là, il y a beaucoup d'enfants, donc tous les enfants, normalement, ont un parent. Beaucoup de parents ont un enfant. Le principe d'être père, c'est qu'on a un fils. Si on n'a pas un fils, on n'a pas de père. Donc d'un côté, le père, le fils, ce n'est pas compliqué à comprendre. Le père est père parce qu'il a un fils, le fils est fils parce qu'il a un père. Donc, ça va. Puis après, d'un coup, on a le Saint-Esprit. Puis là, on est, mince, on fait quoi du Saint-Esprit? Mais c'est vrai. Et même là, j'aime bien cette image parce qu'elle est un petit peu kitsch, je vous l'accorde. Mais en attendant, au baptême de Jésus, l'Esprit descend. C'est pas une colombe, mais c'est comme une colombe. Donc c'est une comparaison, comme une colombe. On regarde l'Apocalypse, on a le Père, le Fils, les deux sont sur le trône, alors Jésus est aussi représenté comme cet agneau. Puis d'un coup, on a l'Esprit, qui sont appelés sept esprits de Dieu, comme ces sept lampes qui sont devant le trône. Mais on n'a pas trois trônes, on n'a pas quelque chose. Vous voyez, le Saint-Esprit est des fois difficile à représenter. Et on peut vite l'oublier. Et moi, ça m'interpelle aussi, des fois, dans notre louange. J'aimais beaucoup ce matin, on a chanté à l'agneau de Dieu, on a parlé de l'agneau de Dieu. Alors oui, évidemment, Jésus est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Je ne vais pas l'aborder ce matin, mais c'est une thématique qui m'interpelle. Cette thématique, cette dimension de Jésus agneau de Dieu. Et si on va un peu plus loin, on se posait la question, s'il n'y avait pas de Trinité, si on avait une d'unité, une binité, je ne sais pas comment on pourrait dire, au lieu d'être trois, ils sont deux, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait? Et qu'est-ce qui manquerait dans nos vies? On a chanté aussi, dans la prière aussi, on est enfant de Dieu, on a été racheté par le Père, à travers le Fils. Et on pourrait dire, le Père nous adopte comme ses enfants. Le Fils s'incarne pour nous sauver. Et c'est le happy end. Il y a un père, il a le fils, il adopte d'autres enfants et on fait partie de la famille de Dieu. Et tout est bon. Mais quel est le rôle de l'Esprit dans notre vie? Et quel est le rôle de l'Esprit de manière générale dans l'Église? Avant d'entrer un peu plus en matière, on va aller un peu plus loin aussi. Ça, c'est le premier concile de Nicée en 325. Puis après, il y a le deuxième concile en 381. Et puis là, on a un petit peu posé les jalons de la foi chrétienne. Et c'est vrai, à un moment donné, les premiers chrétiens, ils avaient l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc on va dire que la révélation était complète. Puis à un moment donné, il fallait essayer quand même de comprendre qui était Jésus. Jésus qui est Dieu, Jésus qui est homme, et puis comment on arrive un peu à articuler les deux. Et il y a plein de théologiens qui se sont rassemblés. On a fait un concile, c'est une rencontre, avec plein de gens intelligents qui ont réfléchi, qui ont prié, et qui ont essayé de structurer la foi chrétienne. C'est un peu une confession de foi, une déclaration de foi. Et on voit que la partie accordé à Jésus, c'est tout ça. On croit en un seul Seigneur, Jésus-Christ, on est d'accord, Fils unique de Dieu, né du Père, consubstantiel du Père, donc de la même nature que le Père, vrai Dieu de vrai Dieu, etc., etc. On a toute la suite, et ça c'est vraiment passionnant parce que ça résume qui est Jésus. Après on voit dans le tableau de gauche, qu'en 325, et on croit au Saint-Esprit. Voilà, on a quatre mots, et au Saint-Esprit. Et ce n'est pas décrit. Puis après, on voit le deuxième concile, en 381, on voit qu'il est Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, et doit être glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. Alors, je vous mets une petite parenthèse historique. Le petit qui procède du Père, les catholiques, ils ont rajouté qu'il procède du Père et du Fils. Donc, il ne procède pas uniquement du Père, mais il procède du Père et du Fils. Et ces petits « et » du Fils, trois mots, ont été une des grandes raisons pourquoi les catholiques et les orthodoxes se sont séparés en deux églises distinctes. Donc, voilà, si vous voulez savoir pourquoi il y a une querelle qui dure depuis bientôt 2000 ans, 1500 ans, à peu près, c'est à cause de ça. Voilà. C'est en théologie, on appelle ça la question du filioque, en latin, est du fils. Mais voilà, c'est la petite parenthèse historique. Mais même là, on voit qu'en 381, le rôle du Saint-Esprit était un petit peu compliqué. On n'a pas toute une déclaration de foi. Vous voyez, on voit le Fils, on a tout ça. Et c'est hyper précis. Né de la Vierge, qui est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Donc on a un élément historique. Ponce Pilate est un homme qui était attesté historiquement. Donc on voit que les pères de l'Église ont vraiment remis Jésus dans l'histoire. Mais on voit que le rôle du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, est toujours un peu difficile à définir. Mais on va aller encore un peu plus loin. On va aller encore plus loin. Parce que là, vous allez me dire, tu es sympa, Patrick, mais on n'est plus en 381. On a un petit peu évolué depuis. Et on va aller voir. Ah, est-ce que quelqu'un reconnaît ce slide? Non, vous ne connaissez pas ce slide. Oui, mais oui, merci. Sur votre site internet, je suis allé regarder votre site internet et vous avez un endroit où c'est marqué « Confession de foi ». Ouais. Et je n'ai pas recueilli votre confession de foi parce que j'aime toujours bien savoir qu'est-ce que les gens y croient. C'est toujours surprenant parce que si vous mettiez que vous croyez que, je ne sais pas, un truc un peu bizarre, non. Mais vous voyez, mais c'est intéressant. Et est-ce que vous êtes, visiblement, ce texte, mais je vous encourage à aller sur votre site internet de votre église, vous avez la confession de foi, vous la lisez, et puis il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous allez vers votre pasteur, vos responsables, et vous dites à ça, je ne suis pas d'accord. Ou ça, je ne comprends pas, explique-le-moi. Parce qu'une certaine manière, c'est un peu le règlement de l'église, qu'est-ce qu'on croit. Et je dois vous dire honnêtement que j'aime beaucoup votre confession de foi, on voit qu'elle est vraiment travaillée, j'ai vraiment parcouru. Et je me dis, ah tiens, c'est vraiment précis, très très précis. Parce que beaucoup d'églises ont vraiment un truc un peu standard, un peu copié-collé, mais là, elle est vraiment précise avec les textes bibliques et tout. Et on voit aussi, là, on a l'œuvre de l'Esprit de nouveau. C'est intéressant, on voit le Saint-Esprit distribue des dons spirituels à chacun, en particulier comme il veut. Ces dons s'exercent sous le contrôle de l'Église. Les dons et le fruit du Saint-Esprit doivent être avidement recherchés. C'est bon, on est dans une église de réveil, une église charismatique, où les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, qui n'est pas au pluriel, attention, ce n'est pas les fruits de l'Esprit, mais c'est le fruit de l'Esprit, je reviendrai un peu plus tard, doivent être avidement recherchés. Et j'ai envie de dire vécus, non seulement recherchés, mais vécus et expérimentés. Et c'est vrai, et tout ce que vous mettez sur la confession de foi, ce point 7, sur le Saint-Esprit, est vraiment bon, il est vraiment bon. J'aime beaucoup ce que vous avez mis, je trouve que c'est d'une très grande richesse, d'une grande précision. Alors je ne sais pas si vous avez repris la confession de foi de la Fédération des Églises du Réveil, ou si c'est l'Église qui a fait, peu importe, mais c'est bien, c'est très très bien. C'est pour ça que j'ai un petit peu parlé au début un peu sur le fruit, après les dons de l'Esprit, et après j'arriverai au point que j'aimerais vous partager ce matin, qui est pour moi encore quelque chose de différent, non pas supérieur, mais pour moi complémentaire aux fruits et aux dons de l'Esprit. Est-ce que vous avez comme ça le fruit de l'Esprit qui vous vient en tête? Quel est le fruit de l'Esprit? Ou quelle est la déclinaison du fruit de l'Esprit? Ok, il y a l'amour. Pardon ? La patience. Oui, c'est important, la patience. Oui, exactement. La maîtrise de soi, exactement. La joie. Enfin, la joie, oui. La bienveillance, exactement. Alors, moi, j'ai mis la bonté, comme ça, après, je ne reprendrai pas. Et il y a la paix, exactement. Et la douceur, exactement. Et la fidélité, etc. Et la bonté ou amabilité. Enfin. Donc voilà, ça, il y en a 9. C'est très bien. Et c'est intéressant de se dire que ce n'est pas les fruits, parce qu'on ne peut pas dire « j'ai l'amour, mais je n'ai pas de patience ». C'est vrai. Par contre, la maîtrise de moi, non, ça c'est... Vous voyez, ça serait un peu embêtant si on pouvait sélectionner. Non, je pense que c'est un fruit, et en grec, dans le Nouveau Testament, c'est un fruit, c'est le fruit. Et je pense que c'est important, parce que toute cette panoplie de 9 caractéristiques doit être manifestée dans notre vie. Et j'ai envie de dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc un chrétien qui n'a pas de joie, moi ça m'interpelle. Et c'est vrai, un chrétien qui n'a pas de joie, ben, il y a un problème. Si je prends la joie, est-ce que vous vous dites que Jésus est l'être le plus joyeux de tout l'univers? Ou est-ce que vous voyez des fois un peu un Jésus un peu austère, un peu triste, un peu dur avec les pharisiens, un peu qui clash, ou un peu, des fois on peut avoir un peu un Jésus, des fois qui est un peu rude. C'est vrai, on voit souvent Dieu le Père, Dieu est amour, et puis on, comme si Jésus c'est une boule d'amour, un nuage d'amour, on parle toujours que Dieu est amour. Mais est-ce qu'on voit que Jésus est l'être le plus fidèle de l'univers, l'être le plus doux de l'univers, la personne qui est la plus grande maîtrise de soi de tout l'univers, quand nous lisons des fois même le récit de la Passion. Des fois, je dis, mais là, il y a des baffes qui se perdent. Mais c'est vrai, des fois, et pourtant, on voit aussi que Jésus n'a pas répondu. Il y avait une maîtrise de lui impressionnante. Moi, dimanche dernier, j'ai prêché sur Pâques, et j'étais encore impressionné quand j'ai préparé ce message, en me disant, mais nombre de fois où Jésus aurait pu s'énerver, où il aurait pu clasher Pilate, Hérode, etc. Mais tellement une telle maîtrise de soi et de nos vies, est-ce qu'on a aussi une maîtrise de soi exemplaire face à nos collègues, face à différentes situations qui se présentent devant nous? La fidélité, la bonté, la paix, est-ce qu'on est connu comme des hommes et des femmes de paix? Ou est-ce qu'au contraire, on sème la division, on sème la discorde? De notre travail vis-à-vis de nos chefs, de nos collègues, est-ce qu'on est des hommes, des femmes de paix? Est-ce que cette église est un lieu de paix? Est-ce que cette église est un lieu d'amabilité, de bonté, les uns envers les autres? Est-ce que nous vivons le fruit de l'Esprit dans ce lieu, dans notre vie, dans notre quotidien? C'est pour être toute une thématique, tout un message, mais je ne vais pas plus développer ça, mais je vous encourage à relire aussi le fruit de l'Esprit qu'on trouve dans Galates 5, verset 22. On pourrait aussi parler des dons de l'Esprit. Quels sont les dons de l'Esprit qu'on trouve dans 1 Corinthiens 7? Quelqu'un les a? Les dons de l'Esprit. Souvent on veut dire, oh, on veut les dons de l'Esprit, on veut vivre les dons de l'Esprit. Parce qu'on est charismatique, donc on doit avoir les dons. Oui, prophétie, très bien. Guérison, exactement. Foi, exactement, foi. Sagesse, oui, c'est le premier. Discernement, 6. 7. 8, il manque un. Non, 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 ça serait dans Romains. Ça, je reviendrai après. Je crois que celui qui nous manquait, c'est le don de connaissance. Il y a les paroles de sagesse, mais aussi le don de connaissance. Les deux sont un peu différents. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, ça me fait toujours... Enfin, pas rire, non, parce que... Oui. Mais c'est vrai, souvent, on veut les dons de l'esprit. On pense aux dons du miracle, de foi, de guérison, puis on va rire les paralytiques, et puis... Puis on veut le parler en langue, et puis on est bilingue, français parler en langue, et puis on switch de l'un à l'autre. Non, mais c'est vrai. Et comme si c'était ça, d'être chrétien, d'être charismatique. Et c'est vrai, moi ça m'interpelle. Les groupes de jeunes, on prie pour que les gens reçoivent le parler en langue. J'ai jamais été dans une soirée, un groupe de jeunes, où on prie pour que les gens reçoivent la sagesse ou la connaissance. Mais c'est vrai, on va vers quelqu'un, j'ai prié pour toi pour que tu reçoives la sagesse. C'est un peu bizarre. Par contre, prier pour toi pour que tu saves le parler en langue ou que tu saves le don du miracle, ça, c'est cool. Mais vous voyez, des fois, mais pourtant, c'est la même liste. Hein. C'est encore un Corinthiens 12, versets 7 à 10. Et on voit que la sagesse, la connaissance sont des dons de l'esprit. Et oui, la foi est un don de l'esprit aussi. Alors, il y a la foi qu'on a, on a la foi, mais il y a des gens qui ont été connus comme ils avaient une foi particulière, un don de foi. Je pense à un Georges Muller ou peut-être d'autres gens qui ont entrepris des choses vraiment par la foi, qui dépassent l'entendement. Et c'est aussi un don du Saint-Esprit. L'interprétation des langues aussi est un don du Saint-Esprit. Et maintenant, la troisième partie. Après le fruit, les dons, la troisième partie. Mais avant ça, juste finir avec les fruits et les dons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a combien de déclinaisons du fruit de l'esprit ? Il y en a 9. Et il y a combien de dons ? 9. C'est un petit truc mnémotechnique. Donc, les fruits et les dons, il y en a 2 fois 9. Donc voilà, je pense que les deux sont complémentaires. Voilà, c'est un petit, mais voilà, une petite parenthèse que je voulais signaler. Mais j'aimerais aussi vraiment rappeler, et pour moi c'est tellement important, que le Saint-Esprit n'est pas une émanation du Fils et du Père. Et des fois, on pourrait croire un peu le Saint-Esprit, c'est un peu comme une puissance qui permet d'opérer des miracles, une puissance qui permet d'opérer des guérisons. Et moi, ça m'interpelle. Et des fois, on oublie que le Saint-Esprit est vraiment une personne. Ce n'est pas un fluide. Et même en théologie, on dit toujours que le Saint-Esprit est aussi consubstantiel au Père ou au Fils. Il est de la même nature. Vous voyez, c'est intéressant. Même dans les déclarations de foi, on dit que le Fils est de même nature que le Père. Heureusement, c'est vrai. Il faut dire qu'ils ont la même gloire. Des fois, on oublie de dire que oui, il a la même nature que le Père et l'Esprit. Et l'Esprit a la même nature que le Fils et le Père. Et les trois ont la même nature, la même gloire, la même dignité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment réaliser qu'ils ne sont pas sur un piédestal, le Père et le Fils, puis le Saint-Esprit, c'est un peu la troisième personne, c'est un peu une puissance qui vient, qui habite le croyant. C'est une personne. Et le principe d'une personne, c'est qu'il a une personnalité. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment important. On va aller un peu plus loin. Et on a ce texte de Paul qui dit « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et là, on voit, on a l'Esprit de Dieu. Ok, Dieu, en tant que Trinité, c'est l'Esprit de Dieu. Rien de surprenant. Habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et là, on se dit, ah mince, attends, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ ? C'est un peu embêtant, là. Et je dis, mince, là, Patrick, tu dis c'est l'Esprit, mais en même temps, si c'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit du Fils. Est-ce que le Fils n'a pas un esprit propre, vous voyez ? Et c'est là, d'un coup, qu'on arrive un peu au mystère de la Trinité. C'est une beauté. C'est qu'ils sont tellement parfaitement un qu'on ne peut pas dire que l'Esprit pense d'une manière et le Fils pense d'une autre manière. On a tous été enfants. Si je voulais une nouvelle paire de chaussures, j'allais vers ma maman. Elle disait, maman, il me faut 20 francs, 30 francs, 50 francs, peu importe la somme, parce qu'il me faut une nouvelle paire de chaussures. Et ma maman me disait, Patrick, tu as assez de chaussures. Alors qu'est-ce que je faisais ? J'allais, papa, il me faut une paire de chaussures. Alors des fois, il me disait, va demander à maman. Ou des fois, mon papa me disait, bah, tiens, 5 ans Noël, va t'acheter une paire d'Adidas. Et puis, parce que mon papa est allemand, donc il préfère Adidas que Nike, donc voilà, il était toujours content. Et puis, mais voilà, non, mais on l'a tous fait. Le soir, papa dit, tu rentres à 22h. Maman, je ne peux pas rentrer à 22h15, 22h30. Ok, puis mais voilà, mais on a tous été comme ça. Ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas faire avec Dieu. On ne peut pas aller vers Jésus, on demander quelque chose, puis après Jésus dit non, puis on va vers le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit dit oui, ou inversement. Mais vous voyez, ils sont parfaitement un. Ils sont parfaitement unis. Et il n'y a aucune tension entre les deux. Et Jésus il dit, qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus dit, l'Esprit prendra dans ce qui est dans moi et vous le révélera. C'est pour ça que souvent on est centré sur Christ, parce que l'Esprit pointe vers le Christ. C'est pour ça que ce matin on a chanté « À l'agneau de Dieu », parce qu'on chante l'œuvre du Fils par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous pousse vers le Fils, à glorifier le Fils. Et le Fils nous pousse vers le Père, et c'est les vases communicants. Et d'une certaine manière, c'est cette beauté de la Trinité qui m'émerveille. Et le Saint-Esprit qui habite en nous nous révèle le Fils, qui lui-même nous révèle le Père. Et c'est un peu comme les poupées russes, c'est impressionnant. Et c'est là où j'arrive avec un beau cœur rouge, le cœur de mon message. Et c'est cette troisième partie, après les dons et le fruit, pour moi c'est cette plénitude du Saint-Esprit. Je vais le lire avec vous. Dieu nous l'a révélé par son esprit. Donc c'est Dieu en tant que Trinité nous l'a révélé par la personne de l'esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme ? Seul l'esprit de cet homme, on lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Voilà, les deux, j'en déduis que vous êtes mariés, vous êtes assez... Mais, oui ? Vous êtes mariés ? Vous êtes mariés, hein ? Oui, mais parce que je ne vais pas faire un faux bon. Mais, vous avez à peu près combien d'années de mariage ? 39 ? Et magnifique. Et je suis sûr qu'après 39 ans d'années de mariage, vous dites de temps en temps, ah, purée, il me surprend encore. Vous dites, ah ouais, là, on bien ou on mal, peu importe. Donc, on va dire on bien, parce qu'il faut être positif. Mais vous voyez, des fois, on se surprend. Ah, mais c'est vrai, des fois, je dis, ah purée, ça fait 39 ans qu'on est mariés, et tu arrives encore à me surprendre. Eh bien, le seul esprit sonde tout. Il sonde toutes les profondeurs de Dieu. L'Esprit ne va jamais dire au Fils, ah ben dis donc, là, tu me surprends. Parce qu'ils sondent tout, même les profondeurs de Dieu. Et moi-même, je ne me connais pas moi-même. Des fois, je me surprends aussi. Ah, mais c'est vrai. Des fois, on peut dire, ah, je me connais. Puis d'un coup, je suis dans une situation un peu délicate. Puis d'un coup, je me dis, ah, tiens, non, tiens, ah, ouais, tiens. D'un coup, il y a un peu le bas qui blesse. D'un coup, peut-être une. D'un coup, c'est, ah, ouais, non, là, d'un coup, non, bah, on redescend un peu sur terre. Ou... dans des situations, d'un coup, je ne sais pas, d'un coup, vous êtes sur la route, vous croyez avoir la patience, puis tout d'un coup, vous êtes dans la zone 60 entre Neuchâtel et Bienne, puis vous dites 60, c'est très rapide, j'aimerais bien aller plus vite. Ou quelqu'un roule vraiment à 50 pour être sûr de ne pas être flashé, vous êtes derrière, puis vous dites, bah, il pourrait aller un peu plus vite. Alors moi, honnêtement, la voiture, ça ne me fait rien du tout, donc je vais rouler à 30 km/h, je ne vais pas m'énerver. Mais peut-être qu'il y a d'autres domaines où d'un coup, ah, il y a des choses qui remuent en nous, puis on dit, ah oui, tiens, ça c'est surprenant. Et à combien plus forte raison dans des situations délicates ? Puis d'un coup, il y a des problèmes financiers, puis d'un coup, on se pose des questions. Voilà, d'un coup, il y a peut-être des choses qui viennent, ou des tensions qui viennent avec des gens, puis d'un coup, on s'énerve, puis d'un coup, il y a des choses, ah ouais, tiens, ça remue des choses en nous. Mais bonne nouvelle, l'esprit sonde tout. L'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et il le dit, nous avons reçu cet esprit. Donc l'esprit qui sont les profondeurs de Dieu habite en nous. Et d'une certaine manière, nous avons la pensée de Dieu en nous. La pensée de Christ nous anime. C'est quand même beau. C'est quand même beau de dire que l'esprit en nous nous révèle le Fils, le Père, et tous les mystères, et toute l'intelligence de Dieu habite en nous. Et c'est pas juste, l'esprit n'est pas juste là pour faire des miracles ou des manifestations surnaturelles, mais c'est toute la pensée de Dieu qui a présidé à la création, toute la sagesse de Dieu habite en nous. Par l'Esprit en nous, on a un accès illimité à Dieu. Et moi, ça me fascine. C'est un peu comme vous prenez un vieil ordinateur qui lui-même n'a aucune mémoire, aucune capacité, mais vous avez un accès fibre optique à tout ce que vous voulez, à des milliards de terras, de gigas de données que vous avez à disposition. Alors vous avez un disque dur de peut-être quelques 1, 2 gigas, un truc vraiment faible. Mais vous avez un accès illimité. On a accès à la pensée de Dieu. Et moi, ça m'impressionne. Et qu'est-ce qu'on en fait dans la vie de tous les jours, dans le monde qui nous entoure, dans notre travail, dans notre quotidien? Est-ce qu'on a aussi cette sagesse de Dieu qui nous remplit? Je ne vais pas reprendre un petit peu le schéma, mais j'ai un peu expliqué avec le Père, le Fils, l'Esprit, le Fils qui révèle le Père, etc., et qu'il y a une seule pensée. Et on a ce texte aussi dans Ésaïe, qui est pour moi assez fort. Ce texte parle de l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, donc sur Jésus. Et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. 6. Après, il y a un 7e qu'on peut comprendre le mot crainte Des fois, les deux mots craintes, des fois, ce n'est pas la même traduction. Donc, on pourrait dire qu'il y en a 6 ou 7, ça dépend. Peu importe, 6 ou 7, choisissez. Mais est-ce qu'on a la sagesse, la connaissance? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, on a cette connaissance surnaturelle de Dieu qui nous habite? On parlait, je ne me rappelle plus qui c'est, dans la prière, ou qui a abordé la thématique d'Israël. C'était vous, monsieur? C'était. Ben voilà, de nouveau. Ok. À l'heure actuelle, comment comprendre cette situation? Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement, donne-moi de connaître, peut-être aussi de craindre ton nom, de dire peut-être qu'on est dans les temps de la fin, et des choses qui vont arriver. Et donne-nous d'avoir cette sagesse, ce discernement dans le monde. On peut prendre toutes les thématiques, l'économie, on peut se poser les questions, les tensions, les guerres, les bruits de guerre. Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Nous sommes sur ta fréquence, dans tellement de domaines, dans tous les domaines de nos vies. Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Viens me donner cette intelligence renouvelée, ce renouvellement de l'intelligence dont parle Paul aussi. Pour moi, c'est ça aussi une des dimensions du Saint-Esprit. Il y a le fruit de l'Esprit, il y a les dons de l'Esprit, et c'est important, et bien pour moi, il y a encore cette troisième dimension, cette plénitude du Saint-Esprit dans le renouvellement de l'intelligence. Paul avait ce renouvellement d'intelligence. Quand vous lisez les lettres du Nouveau Testament, d'une certaine manière, nous, on a 2000 ans d'expérience. Et pour Paul, c'était quelque chose de nouveau. Il avait l'illumination des textes de l'Ancien Testament, cette compréhension que l'Ancien Testament pointait vers Christ. Et il a eu l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour le mettre par écrit. Quand vous lisez la lettre aux Romains, moi je suis toujours fasciné en lisant la lettre aux Romains. Puis je dis, à un moment donné, Paul, il a dû le comprendre. Et une fois qu'il l'a compris, il l'a mis par écrit, inspiré par le Saint-Esprit, on est d'accord. Mais il y a quand même eu une intelligence, une compréhension. Et combien de chrétiens, dans des moments difficiles, ont aussi eu l'intelligence de discerner, de voir, d'anticiper. Et pour moi, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Moi, je recherche dans ma vie, on dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire en Suisse, en Europe, à l'heure actuelle, en 2023? Je sois sur ta fréquence, discerner ce que tu fais. Dieu parle, Dieu révèle. Pendant 2000 ans, des chrétiens ont eu cette intelligence renouvelée. Et moi, je m'encourage aussi à demander à Dieu de me révéler les pensées du Père, le cœur du Père, de me révéler ce qui anime Dieu, comme on l'a vu dans ce texte de 1 Corinthiens. Qu'en tant que chrétiens, nous soyons connus comme des gens avec l'intelligence éclairée. Daniel était un homme animé d'un autre esprit. Il avait l'intelligence éclairée. Il discernait, il comprenait. Jésus avait l'intelligence renouvelée. Nombre de fois, les pharisiens venaient, et la Bible dit, Jésus savait dans son esprit qu'il venait pour le tenter. Où Jésus il dit, mon heure n'était pas encore venue. Donc il avait conscience que ce n'était pas encore l'heure. À un moment donné, dans Jean 17, il dit, Père, l'heure est venue. Et Jésus avait conscience que sa mort était venue. Jésus n'a pas été pris de court. Et pour moi, c'est tellement important de notre vie de ne pas être surpris. Un peu comme aux échecs, d'avoir toujours un coup d'avance. Et l'Esprit en nous peut nous révéler tellement de choses. Et c'est vraiment ma prière pour vous, c'est que dans nos vies, nous puissions aussi nous positionner. Quelle place occupe le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit dirige ma vie, dirige mes pensées, dirige mon comportement, aussi face au péché? Que le Saint-Esprit aussi nous donne le discernement d'éviter des situations qui sont difficiles? Est-ce que j'ai aussi cette intelligence renouvelée dans mes choix concernant le péché? Si vous voulez arrêter de fumer, mais c'est toujours un paquet de cigarettes à la maison ou un paquet de cigarettes dans la poche, c'est dur d'arrêter. Des fois, il y a aussi du bon sens, vous voyez. Et dans tellement de domaines, ben, je pense qu'on pourrait aussi éviter le péché par preuve de sagesse, de bon sens, d'éviter des situations où on sait que, ben, on peut tomber dans le péché. Est-ce que la crainte du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse, nous anime? Craindre Dieu. Quelle place occupe la saine et sainte crainte de Dieu? Et aussi, le fruit et les dons de l'Esprit me rendent-ils davantage comme Jésus? Dans mon caractère, tant de questions que je voudrais vous laisser un peu en suspens. Mais ne réduisez pas le Saint-Esprit aux manifestations visibles. C'est tellement plus. C'est tellement plus que ça, le Saint-Esprit. Et que nous puissions vraiment le vivre dans notre quotidien, dans notre travail. Peu importe ce qu'on fait, même dans le travail manuel, je ne sais pas, quelqu'un qui est bénisse, ben il a l'intelligence renouvelée et il travaille mieux, il est plus efficace. Dans la gestion du stress, des priorités, d'avoir l'intelligence renouvelée, de discerner qu'est-ce qui est juste de faire au bon moment. Peu importe le domaine, vous avez des enfants, de discerner la bonne manière de les élever, de les éduquer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire, et puis d'avoir notre échelle de valeur chamboulée, remise en question, ou plutôt réétalonnée sur les bonnes priorités, et que ce soit vraiment du concret dans nos vies, et que ça puisse évidemment aussi se manifester par le fruit et les dons de l'esprit. Je crois à l'œuvre de l'esprit, à la plénitude de l'esprit, et qui est vraiment un enracinement profond en lui. Je vous propose de prier pour terminer. C'est vrai que nous voyons l'univers, que nous voyons la création, à quel point c'est précis, que nous voyons les astres, les galaxies, que nous voyons le corps humain, que nous voyons la nature autour de nous, toute la complexité de la création, la richesse de ton œuvre, Seigneur. Nous sommes toujours émerveillés, les scientifiques ne cessent de découvrir des choses nouvelles. Et pourtant, tu es ce Dieu qui a tout créé, tu es ce Dieu par lequel toutes les choses existent, subsistent, Seigneur. Tu habites en nous par ton esprit. Viens, Saint-Esprit, nous révéler le Père, viens nous révéler le Fils. Viens nous donner cette sagesse, cette connaissance, cette maturité, ce discernement dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Qu'en tant que chrétiens, nous puissions être connus comme des gens sages, des gens intelligents, Seigneur. De notre travail, de notre famille, que des gens puissent venir vers nous, nous demander conseil. De notre travail, que nous soyons consciencieux, que nous soyons des témoins là où tu nous places, Seigneur. Que cette œuvre de l'Esprit puisse pleinement se manifester en nous. Viens nous éclairer ta parole, renouveler notre intelligence quand nous lisons la Bible. De notre vie de prière aussi, que notre vie de prière puisse être renouvelée, que nous puissions prier intelligemment pour des nouveaux sujets, d'autres sujets de manière plus précise, selon ta volonté, que nous discernions ce que tu es en train de faire dans ce monde, en Suisse et ailleurs. Seigneur, que nous ayons toujours un coup d'avance, nous ne soyons pas surpris, pris ou dépourvus, parce que toi-même, tu n'es jamais pris ou dépourvu, Seigneur. Et tu es ce Dieu qui parle, tu es ce Dieu qui se révèle à ses enfants. Merci, Jésus. Amen.